Europe Midi, Romain Desarbres.
Midi et demi pile, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Il nous a rapprochés les uns des autres, il a transformé le pays, il a fait augmenter le prix de l'immobilier dans les villes où il s'arrête, c'est le TGV. Il fête ses 40 ans aujourd'hui, il est en grande forme, je vous parle du TGV du futur dans un instant. Les petits sixièmes nés en 2010, victimes de harcèlement évidemment, tout par des réseaux sociaux, témoignage de la maman d'une victime. Et puis on sera avec une association de parents d'élèves. Des victimes de terrorisme, les victimes des terroristes islamistes du 13 novembre 2015 vont revivre le début des attaques. La bande-son des 30 premières secondes de la tuerie du Bataclan sera diffusée cet après-midi au procès, nous dira Gladys Laffitte. Notre civilisation ne s'aime plus, dit Nicolas Sarkozy dans le Figaro Magazine. On va y revenir avec Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et puis un propriétaire de supermarché, écoutez bien, qui ferme son magasin pour faire la fête avec ses employés. Avouez que c'est pas commun. On va vous raconter ça dans Europe Midi.
Europe 1.
Et on part tout de suite à la gare de Lyon à Paris pour fêter un anniversaire, celui du TGV qui fête ses 40 ans. On a tous ou presque pris le TGV, ça a été une révolution en 81. C'est François Mitterrand qui a inauguré le premier TGV qui était orange, vous en souvenez peut-être. Aurélien Fleureau en direct de la gare de Lyon. Bonjour Aurélien.
Bonjour Romain.
À quoi va ressembler ce nouveau TGV? Dites-nous.
Alors, la toute nouvelle motrice du TGV du futur vient d'être dévoilée ici. Une couleur blanche très moderne, un nez aérodynamique. Ce train va permettre d'émettre 32% de CO2 en moins. Il permettra aussi de dépenser 20% d'énergie en moins. Et il sera entièrement modulable à l'intérieur avec des espaces famille, des espaces de travail pour les professionnels. Et puis, la possibilité, par exemple, de basculer une rame de première classe en seconde, en seulement quelques heures. Il y aura aussi de la 5G à bord, c'est en tout cas la promesse, des trains qui pourront accueillir jusqu'à 740 passagers, soit 200 de plus que les actuels TGV duplex.
Donc voilà pour ce nouveau TGV. Aurélien, le TGV va continuer à se développer hein, avec de nouvelles lignes.
Oui, clairement, avec d'abord une annonce ce matin sur ce TGV-M, une accélération de la production. Alstom va passer de 9 à 12 rames par an, un calendrier qui va donc s'accélérer pour une arrivée sur les rails en 2024. Et puis effectivement, de nouvelles lignes. Hein, Emmanuel Macron, s'il est venu ici, eh bien c'est bien pour signifier que les investissements sur la grande vitesse allaient continuer.
Alors 40 ans après, je suis venu pour vous dire que cette histoire, cette passion française pour le train, le génie technologique, nous allons la poursuivre. Et nous allons la poursuivre en grand. Le Premier ministre a annoncé les 6,5 milliards d'euros qui seront investis pour la réalisation des lignes à grande vitesse Marseille-Nice, Montpellier-Perpignan, Bordeaux-Toulouse.
Et le chef de l'État a terminé son discours par un « Vive la SNCF » juste après avoir insisté sur cette décennie 2020 qui sera, selon lui, la décennie du train.
Merci beaucoup Aurélien. Voilà, vive la SNCF et vive la France. Merci Aurélien Fleureau en direct de la gare de Lyon. Anti-2010, brigade contre les 2010. Tout le monde déteste les 2010. Ça ferait sourire si ça ne se terminait pas par des violences. Depuis la rentrée, les enfants nés en 2010 sont la cible de harcèlement à l'école. Thibaut Hu, expliquez-nous pourquoi tant de haine.
Mais tout est parti de Fortnite, un jeu vidéo très prisé des collégiens. Ils y font beaucoup de parties en ligne. Les plus anciens joueurs reprochent à ces enfants nés en 2010 de ne pas respecter les codes du jeu, alors que ce sont seulement leurs premières parties. La vague de haine, elle s'est ensuite propagée sur le réseau social TikTok avec des messages violents. Et ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est une chanson sur YouTube de l'une de ces enfants nés en 2010, perçue comme de la provocation. Et maintenant, le phénomène dépasse Internet. Des élèves de 6e sont témoins de rejet, de remarques de la part d'adolescents plus vieux. C'est ce que raconte cette maman d'un petit garçon qui a fait sa rentrée au collège.
C'est des petites vannes blessantes, c'est jamais très bienveillant, c'est un peu désobligeant. C'est t'es de 2010, donc c'est au sport, c'est à l'arrêt de bus en bas du collège. Ah, toi, t'es en 2010, t'es bien pourri. Enfin, le premier truc qu'on lui demande, c'est quelle année tu es. Mais du coup, il s'interroge sur pourquoi les 2010 et pas les autres, pourquoi moi je suis la cible de certaines remarques et pas les autres. Mais du coup, ça le travaille. C'est vrai qu'on en parle quasiment tous les jours, quoi.
Sur les réseaux sociaux, de nombreux parents lèvent la voix. Certains rapportent que leurs enfants sont angoissés à l'idée de retourner en classe.
Merci beaucoup Thibaut. Le phénomène a pris tellement d'ampleur que le ministre de l'Éducation nationale a réagi hier soir sur les réseaux sociaux. Jean-Michel Blanquer qui a adressé ce message, on va dire, à toute la communauté éducative.
Il y a un mouvement qui monte, qui consiste à mal accueillir les élèves de 6e. Et à embêter les élèves nés en 2010. c'est évidemment complètement stupide, c'est le contraire à nos valeurs. Rappelez-vous, quand vous étiez sixième vous-même, c'était spécial d'arriver au collège et vous comptiez sur la bienveillance de tout le monde. Eh bien, soyez bienveillants à votre tour, soyez des ambassadeurs contre le harcèlement. Et c'est évidemment cela qui va l'emporter, les valeurs de fraternité et pas la bêtise.
C'est vrai que c'est complètement stupide. On est en direct avec Najat Belhassen. Bonjour, vous êtes présidente de la FCPE, Association de parents d'élèves. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Ça fait 3 semaines que ça dure. Il y a des cas graves qui vous sont remontés ?
Alors bonjour. Alors pour l'instant, les cas graves, ça dépend ce que vous appelez un cas grave. Nous, rien que les images qui circulent sur le réseau TikTok, on trouve que c'est grave. Donc après, il y a les degrés de gravité. Mais quand on voit sur des images des personnes cagoulées, armées, qui se rendent au domicile d'un enfant de 2010, ou en tout cas qui miment le fait de se rendre au domicile d'un enfant de 2010, je pense que là, on est quand même sur des cas assez graves, déjà de violence vis-à-vis de mineurs, et qu'il faut agir maintenant pour justement éviter le pire.
Bah oui, évidemment. L'intervention du ministre, ça va calmer un petit peu les choses, selon vous ? Les professeurs vont faire un petit peu plus attention, les parents aussi ?
Alors, nous sommes une fédération de parents, comme vous l'avez très bien dit, nous sommes la première fédération de parents. On a alerté, nous, justement, parce que tout... Très vite, on a alerté le cabinet du ministre et tout de suite après, le lendemain, il y a eu cette vidéo. Donc, on remercie les services du ministère d'avoir réagi à notre appel. Mais par contre, bien sûr, ça ne suffira pas. Il ne suffit pas de mettre des hashtags pour endiguer le phénomène. Il va falloir aller beaucoup plus loin. Et nous, ce qu'on demande et ce qu'on a demandé au ministère, c'est d'agir soit par des lois, soit par de la cybersurveillance beaucoup plus accrue pour protéger ces mineurs des réseaux sociaux et des phénomènes des réseaux sociaux. On le sait aujourd'hui, hein, les réseaux sociaux, ça va très vite. Nous, ça fait déjà un moment qu'on travaille autour de l'éducation aux médias. Et la période qu'on a vécue, enfin qu'on vient de vivre en tout cas avec les confinements, n'a pas arrangé ce phénomène. On a des élèves qui sont fragilisés par ces confinements et qui sont dans des états psychologiques très graves en fait à prendre en compte en tout cas. Et donc il faut avoir aussi cet aspect-là des choses en fait.
Najat Belhassen, présidente de la FCPE, qu'est-ce que les parents peuvent faire ? Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire pour qu'ils se rendent compte que leur enfant va pas bien ou que leur enfant est un harceleur ? Ça existe aussi, bien sûr, c'est le sujet d'ailleurs.
Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, bien sûr, ça passe par l'éducation aux médias, ça passe parce que empêcher un enfant, un adolescent, d'aller sur des réseaux sociaux, on le sait très bien, souvent ça ne marche pas. Les parents sont un peu démunis face à ce phénomène. Donc l'éducation aux médias est essentielle. Il faut aussi surveiller tous les signes, les signes d'alerte qui peuvent survenir et qui peuvent être des signaux très faibles en fait. Mais au moindre signaux faibles, il faut discuter avec son enfant, il faut l'apaiser aussi parce qu'on a aussi beaucoup d'enfants de sixième qui sont en fait des enfants qui sortent, il ne faut pas l'oublier, de primaire, où le cadre est encore différent. Donc c'est vraiment une année charnière qui sont stressés en fait. C'est un climat anxiogène qui s'est installé. Et du coup, on a pas mal de remontées d'élèves qui ont peur d'aller au collège. Donc vous voyez, c'est ce phénomène-là qu'on veut empêcher. C'est aussi un travail plus profond autour du cyberharcèlement et du harcèlement en général que nous traitons déjà depuis quelques années. Donc,
voilà, et on surveille bien les enfants, on regarde leurs réactions, c'est ce que vous nous dites dans Europe Midi. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, Najat Belhassen, présidente de la FCPE. Merci beaucoup, très bon après-midi à vous. Les tout derniers chiffres de l'épidémie donnés il y a quelques dizaines de minutes par Santé publique France. Élise Dangean avec nous. Bonjour Élise.
Bonjour.
Vous avez suivi la conférence de presse, vous avez de bonnes nouvelle à nous donner. Allez-y.
Et oui, la décrue de l'épidémie se poursuit pour la 4e semaine consécutive au niveau national. Le taux d'incidence est repassé sous la barre des 100 cas pour 100 000 habitants, une première depuis mi-juillet. Il était remonté à près de 250 le mois dernier. Le nombre de nouveaux cas a, lui, baissé de près de 30% par rapport à la semaine dernière. Autre signal positif, le nombre de recours aux soins décélère chez SOS Médecins, mais aussi à l'hôpital, moins 26% aux urgences. Alors, comme toujours, il y a des disparités quartiers géographiques. Quatre régions ont un taux d'incidence encore supérieur à 100. Il s'agit de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Corse, de l'Île-de-France et de l'Occitanie. Dans les Outre-mer, les chiffres restent élevés, mais là aussi commencent à se stabiliser ou même à décroître. C'est le cas de l'incidence en Guadeloupe et en Martinique. Enfin, sur tout le territoire, pas d'inquiétude particulière à avoir à ce stade sur les écoles. Au total, près de 3300 classes sont fermées. C'est moins de 0,1% des classes du pays.
Merci beaucoup, Élise. Voilà, reste à savoir quand on va desserrer un peu l'étau, quand va-t-on pouvoir retirer le masque ou arrêter, en finir avec le pass sanitaire. Le président de la République a laissé entendre que ça pourrait être dans les prochaines semaines, peut-être prochain mois. Voilà, merci beaucoup Élise. 12h40, restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. La bande-son des 30 premières secondes de l'attaque du Bataclan va être diffusée cet après-midi au procès des attentats du 13 novembre. On retrouvera Gladys Laffitte dans quelques instants. A tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
12h43, un moment d'une rare émotion cet après-midi au procès des attentats avec les constatations des scènes de crime qui vont continuer. Gladys Laffitte suit ce procès pour Europe 1. Émotion et difficulté pour les victimes et leurs proches à qui l'on va faire revivre la nuit d'horreur du 13 novembre.
Oui, même si la cour, les avocats généraux et les enquêteurs qui se succèdent à la barre depuis hier ont fait le choix de la retenue. Seuls des plans larges des scènes de crime des terrasses ont été diffusés. On distinguait des victimes allongées au loin, mais en aucun cas des photos zoomées n'ont été projetées. Concernant les kamikazes du Stade de France, là encore, le policier avait pris le soin de retoucher l'image, de cacher le corps déchiqueté et celui de la victime par des carrés blancs. Malgré toutes ces précautions, il a bien fallu diffuser deux vidéos hier, deux vidéosurveillance de la tuerie à la Bonne Bière. Sans son et de mauvaise qualité, l'enquêteur s'était excusé auprès des victimes de devoir le faire, mais ces images sont importantes pour l'enquête, a-t-il dit. Cet après-midi risque d'être difficile également pour les parties civiles, puisque c'est la scène de crime hors norme du Bataclan qui sera étudiée. Là encore, pas d'images en gros plan, mais des vues larges. Et surtout, un audio, les 30 premières secondes de l'attaque, enregistré par un dictaphone. Au total, il existe plus de 2 heures de bande-son que la cour a choisi de ne pas diffuser dans son intégralité. Le son, ça décuple l'image. Imagination, c'est encore pire que des images, m'avait confié l'un des acteurs du procès il y a quelques mois.
Voilà, et je voulais vous faire écouter également ce témoignage recueilli par Gladys Laffitte, témoignage d'une policière de Ligy. Ligy, à la police, c'est l'identité judiciaire. Elle est commandante de police. Elle nous raconte son 13 novembre, quand on lui a appris la nouvelle de l'attentat et qu'elle a dû aller identifier les corps.
On encaisse la nouvelle, enfin voilà, on est un peu tous abrutis. Et après, il faut se préparer et aller faire malheureusement les constatations sur ces scènes qui sont des scènes de guerre, qui sont même pas des scènes de crime comme on a l'habitude de voir, mais qui sont des scènes hors normes en fait. Il faut s'adapter effectivement à la démesure du nombre de victimes. La priorité, c'est identifier les kamikazes. Comme l'enquête avance, donc il y a également des perquisitions, des scellés à examiner pour trouver des traces et indices. Donc en fait, on est toujours dans l'action. Ça ne s'est pas arrêté le 13 novembre. Donc j'ai 25 ans de police. Oui, c'est la nuit la plus hors norme que j'ai vécue jusqu'ici.
Voilà, et vous retrouverez Gladys Laffitte qui vous racontera cet après-midi d'émotion au procès dans le journal de 19h sur Europe 1.
Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1.
Objectif, trouver des emplois aux chômeurs de longue durée qui sont inscrits depuis plus d'un an à Pôle emploi. La ministre du Travail propose aux entreprises de financer leur formation. Maud Descamps, avec nous du service économie d'Europe 1. Maud, comment ça va fonctionner? Et déjà, ce qui est important de noter, c'est que c'est un dispositif qui existe déjà.
Oui, en fait, le gouvernement va amplifier un dispositif qui existe, mais qui pour le moment est assez peu utilisé. Ça s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi. Alors, le fonctionnement est assez simple. Le demandeur d'emploi est formé à un métier directement au sein d'une entreprise. C'est l'État qui paye la formation et derrière, si tout se passe bien, le demandeur d'emploi est embauché. Dans 8 cas sur 10, la personne formée se voit proposer un CDI à l'issue de la formation. Alors pourquoi cette envie soudaine de booster ce plan? Eh bien simplement parce qu'il y a une situation tout à fait paradoxale en France en ce moment. Un taux de chômage à 8% et pourtant, nous manquons de main-d'œuvre. 100 000 salariés dans la restauration, 70 000 dans le bâtiment. L'idée est donc de faire converger ces deux problématiques grâce à la formation.
Merci beaucoup Maud. On est en direct avec Jean-Eudes Duménil. Vous êtes secrétaire général de la CPME. Bonjour Jean-Eudes Duménil.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. Est-ce que ce dispositif amplifié de formation des chômeurs de longue durée, ça vous plaît? Est-ce que les entreprises vont s'en servir selon vous?
Oui, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. En fait, on inverse le sens des flèches, c'est-à-dire que plutôt que de former quelqu'un et puis ensuite de réfléchir à lui trouver un emploi, on identifie déjà un emploi, une offre d'emploi existante, et on propose à quelqu'un qui présente un certain nombre de compétences pouvant correspondre à ce job de se former pour être parfaitement en adéquation avec cet emploi qui lui est proposé à la sortie. Et vous l'avez dit très justement, ça fonctionne dans plus de 80% des cas. Donc c'est quelque chose qui marche très bien, c'est un peu du cousu humain, on fait de la dentelle. C'est pour ça que c'est compliqué et que ça coûte cher. Mais franchement, c'est quelque chose que les employeurs plébiscitent parce que ça répond à leurs besoins. Et le besoin de main-d'œuvre aujourd'hui, il est très important.
Et vous le soulignez, le besoin de main-d'œuvre est très important. Ça ne va pas répondre à tous les besoins des entreprises, évidemment, hein.
Non, bien sûr que non, mais ça pourra en aider certaines. Aujourd'hui, on est dans une situation vraiment paradoxale que les entreprises ont de plus en plus de mal à comprendre. On a plusieurs millions de personnes qui sont indemnisées par Pôle emploi, plus d'un million et demi de chômeurs de longue durée, donc depuis plus d'un an. Et dans le même temps, dans le secteur des services et de la construction, une entreprise sur deux qui cherche à recruter n'y arrive pas. Et plus grave encore, la moitié d'entre elles renonce du coup à ces recrutements, elle renonce à des marchés, donc elle renonce à la croissance, elle renonce, et donc tout le monde est perdant. Voilà, donc il faut à tout prix mettre fin à cette spirale infernale.
Alors justement, sur la réforme de l'indemnisation du chômage que le gouvernement remet sur la table, il y a un point important, c'est le fait qu'un CDI soit désormais plus rémunérateur dans tous les cas qu'une alternance CDD et période de chômage. Est-ce que les entreprises déjà sont favorables à cette réforme? Est-ce que ça ne va pas dans le sens de ce que vous nous disiez à l'instant, d'une incitation à reprendre le travail et à mettre en face les demandeurs d'emploi et les entreprises?
Bien sûr. Quand on parle politique de l'emploi, il y a deux choses. Il y a l'accompagnement vers l'emploi, donc c'est ce dont on a parlé il y a quelques instants, avec des mécanismes de formation adaptés. Et puis, il y a aussi, faut le dire et le répéter, l'incitation à la reprise d'un emploi. Et c'est vrai, de manière très objective, quand quelqu'un gagne quasiment la même chose et dans certains cas davantage sans travailler qu'en travaillant, ben on comprend qu'il ne soit pas incité à reprendre un emploi. Donc oui, la réforme qui est envisagée va modifier ce dispositif et fera en sorte précisément qu'il est plus intéressant de travailler que de ne pas travailler. Ben voilà, c'est quelque chose de basique. Encore une fois, c'était des textes qui aujourd'hui permettaient ça. Les gens qui étaient derrière, on ne peut strictement rien leur reprocher. Mais par contre, il faut modifier cette situation. Aujourd'hui, les entreprises proposent des emplois. Et franchement, quand on parle de précarité, la plus grande précarité, c'est de ne pas travailler. Donc il faut faire en sorte d'accompagner les demandeurs d'emploi et de faire en sorte de répondre aux besoins des entreprises.
Merci beaucoup Jean-Yves Duménil. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. 12h50, le livre de Nicolas Sarkozy sort la semaine prochaine. On en parle tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h53, écoutez, notre civilisation ne s'aime plus. Nous sommes sommés de nous désoccidentaliser, de nous démasculiniser. C'est Nicolas Sarkozy qui le dit dans une interview au Figaro Magazine à l'occasion de la sortie de son livre, la semaine prochaine, mercredi prochain, un livre sur son goût pour la culture. Jacques Serret avec nous, du service politique d'Europe 1. L'ancien président de la République peint son tableau de la France à 7 mois de la présidentielle.
Oui, Nicolas Sarkozy n'y va pas par 4 chemins. Notre civilisation ne s'aime plus, peste-t-il. Les nouveaux censeurs veulent faire régner la terreur d'une nouvelle pensée unique. Et Nicolas Sarkozy s'attaque à tous ceux qui veulent déconstruire notre histoire, notre culture. Nous sommes sommés de nous déblanchir, de nous désoccidentaliser, de nous démasculiniser, comme si nous n'avions plus de passé, de futur et tout juste un présent. Dans ce long entretien au Figaro, Nicolas Sarkozy insiste sur ce lien entre la culture, notre histoire, nos valeurs. Aujourd'hui, quand on veut défendre nos valeurs, on n'entend plus que le mot laïcité, explique-t-il. J'aimerais savoir quels bâtiments ont été construits au nom de ce seul concept aussi essentiel soit-il. Et Nicolas Sarkozy de citer André Malraux, une société qui ne croit plus dans le sacré est une société qui n'a plus d'avenir. Voilà pour le constat du locataire de l'Élysée de 2007 à 2012 qui, dans cet entretien, n'oublie pas d'adresser certains messages à l'actuel président. Emmanuel Macron avait dit en 2017 qu'il n'existait pas de culture française. Nicolas Sarkozy lui répond que si, elle existe et elle doit continuer de rayonner, qu'il n'y a pas de culture sans racines. à ce sujet. Il dit regretter des commémorations, je cite, « trop tièdes pour le bicentenaire de la mort de Napoléon », tout en jugeant que l'actuel président a fait un bon discours. Alors on sait le poids de la parole de Nicolas Sarkozy à droite. Le soutiendra-t-il pour la présidentielle? Il réserve son jugement pour l'année prochaine.
Jacques Serret, merci beaucoup Jacques. 12h54, c'est une histoire que je voulais qu'on vous raconte absolument. Écoutez, un propriétaire de supermarché Leclerc a fermé son magasin une après-midi, pas pour un inventaire, mais pour faire la fête avec ses employés. Il voulait les remercier pour leur engagement face au Covid. Avouez que c'est pas commun. Nicolas Feldman, racontez-nous.
Oui, mardi 14h, les clients de l'hypermarché trouvent tout simplement les rideaux de leur magasin fermés. Alors les 200 salariés ont un mot d'excuse puisque la direction les réunit dans une salle des fêtes à quelques kilomètres de là. Écoutez Angélique, elle est en charge des ressources humaines.
On a fait un loto, on avait nos petits cartons, des haricots et puis comme des retraités, je dirais un dimanche. Mais c'était hyper convivial et c'était assez surprenant de se dire que le magasin allait être fermé et qu'on allait tous se retrouver hors contexte travail. Quoi.
Alors, à gagner des cadeaux de chaque rayon, vous avez par exemple des côtes de bœuf pour la boucherie, une télévision pour le multimédia. Le gros lot, lui, il fait rêver. C'est un séjour en Grèce pour deux personnes avec en prime une semaine de congés payés offerte par la direction. Derrière cette initiative, le patron de l'enseigne, Jérôme Chafournet.
C'était un besoin de décompresser et un besoin de se retrouver. On voulait témoigner notre reconnaissance à l'ensemble de nos salariés, de nos équipes. Donc, ce moment-là est venu consacrer cette période qui a duré plus de 18 mois et on a vraiment galéré quoi. On a vraiment galéré.
Et ce loto pourrait devenir une tradition. En tout cas, le patron promet déjà de remettre ça l'année prochaine.
Voilà, c'est vraiment une bonne idée. 12h56, merci Nicolas. Le temps tout de suite avec Anissa. Dadi, Anissa, vous nous annoncez une belle journée de transition. Hein.
Oui, alors journée de transition, Romain, ça veut quand même dire, vous le comprenez, que ça ne va pas durer très longtemps. La bonne nouvelle, c'est quand même que les orages nous ont enfin quittés. Ils se sont déplacés vers l'est, direction l'Italie. Donc le temps est bien plus calme hein, aujourd'hui, avant l'arrivée, donc demain, d'une nouvelle perturbation par l'ouest et avec un week-end assez mitigé. Alors on va en profiter cet après-midi avec tout de même des Hauts-de-France jusqu'à la Provence en passant par le Grand Est, la région parisienne et le Rhône. Dans toutes ces régions, un soleil bien généreux qui brille dans un ciel quasiment dégagé. Les températures sont agréables. On aura 22 degrés à Lille, 23 pour Paris, 24 à Lyon et Grenoble. Au bord de la Méditerranée, même si le vent se lève, les températures restent très douces avec 27 degrés à Marseille et 28 pour Ajaccio sous le soleil. À l'ouest, là, le temps est un petit peu plus instable. Du Cotentin jusqu'au Massif central, en passant par la Bretagne et le centre-Val de Loire, on a un ciel un petit peu plus nuageux avec quelques petites averses et puis des températures un petit peu plus fraîches. Hein. 21 degrés à Saint-Brieuc, 22 à Lille et Strasbourg, 23 pour Caen et Rennes.
Voilà, on a compris le message. Il va falloir profiter de cet après-midi. 12h57, restez bien sûr Europe 1 dans un instant. C'est la France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Très bel après-midi sur Europe.